18h dans le studio Kalangou, Monsieur Dam, bonsoir, bienvenue dans ce journal en français au micro Nafis Adam. Les titres de ce journal, les travaux de la COP22 ont pris fin aujourd'hui à Marrakech. Hier, les différents chefs d'État ont fait leur déclaration politique. COP22 toujours, le président Issifou Mahamadou a été chargé de piloter une commission Sahel qui aura notamment en charge la grande muraille verte pour le Sahel et la conservation du bassin du lac Tchad. À Agadez, les forces de défense et de sécurité dressent un bilan de leurs opérations de sécurisation de la ville. C'était ce matin au commissariat de la commune d'Agadez. Le directeur général du groupe nucléaire français Areva, Philippe Notch, a été reçu hier par le président Issifou Mahamadou. La question de la baisse du coût de l'uranium sur le marché international était au cœur de leurs échanges. Dans la partie magazine, nous irons à la découverte d'un jeune entrepreneur fabriquant du carburant avec des déchets plastiques. C'est finalement hier soir que la communauté internationale a choisi de publier la proclamation d'action de Marrakech, une déclaration politique qui se veut rassurante, ébranlée par l'élection de Donald Trump. Les négociateurs ont cherché à préserver les acquis de Paris en évitant les divisions, notamment sur la mobilisation du fonds de financement.
Nous, chefs d'État, de gouvernement et délégations réunis à Marrakech sur le sol africain, appelons à l'engagement politique maximal pour lutter contre le changement climatique. La dynamique en faveur du combat contre le réchauffement constaté toute cette année est irréversible, a déclaré le texte des États. Une déclaration d'abord politique qui reste cependant floue sur les ambitions concrètes de la COP de l'action, notamment sur les mécanismes du Fonds vert. Les pays en voie de développement avaient pourtant affiché leur détermination en début de sommet, celle à qui une déclaration d'intention pour simplifier rapidement l'accès au fonds de financement et un doublement de la contribution actuelle passant de 10 à 20 milliards de dollars d'ici 2020. L'objectif de 100 milliards est encore loin. L'élection de Donald Trump la semaine dernière a bouleversé la dynamique des négociations et contraint les négociateurs à privilégier le compromis. 15 pays ont rejoint la liste des signataires de l'accord en moins d'une semaine. Les déclarations rassurantes se sont multipliées, dont celle de John Kerry et d'une centaine de grandes entreprises américaines qui ont invité le nouveau président à la raison. L'incertitude demeure sur la contribution financière des États-Unis, deuxième pollueur de la planète.
Un récit signé par Alassane Kouzi Mahamadou, notre envoyé spécial à Marrakech. Par ailleurs, les acteurs ont également multiplié les annonces parallèles au cours de ces derniers jours. On retrouve Alassane Kouzi depuis Marrakech.
Oui, en effet, il y a eu création de nouveaux fonds d'appui aux projets existants ou prioritaires, contribution exceptionnelle de pays comme la France qui s'engage comme l'année dernière sur les énergies renouvelables, création de commissions transversales, une commission au Sahel par exemple qui aura notamment en charge la grande muraille verte pour le Sahel et la conservation du bassin du lac Tchad pilotée par le Niger, une commission fonds bleus destinée à la préservation du bassin du Congo pilotée par le Congo et une commission en charge des États insulaires de l'Afrique pilotée par les Seychelles. Et c'est là pour améliorer la cohérence et la synergie de projets transversaux et l'accès aux fonds. Des avancées par petites touches qui souhaitent compenser le manque d'accord global sur le fonds vert et le transfert des technologies. Le groupe Afrique et le groupe G7, qui regrettent que l'agriculture soit la grande oubliée de ce sommet, continuent de travailler en commission. Aucun accord sur ce secteur pourtant primordial pour le continent. Les négociateurs cherchent également à arracher dans la dernière ligne droite un effort conséquent sur les fonds d'adaptation et des engagements fermes sur l'échéancier des contributions.
La COP22 toujours, notre envoyé spécial Alassane Kouzi le disait à l'instant, une commission Sahel a été mise sur pied, elle aura notamment en charge l'édification de la grande muraille verte pour le Sahel et la conservation du bassin du lac Tchad piloté par le Niger. À l'occasion de ce sommet, le président Issifou Mahamadou a d'ailleurs longuement évoqué les problèmes du lac Tchad au nom des pays membres de la commission du bassin du lac Tchad.
Le bassin du lac Tchad est confronté à une triple crise écologique, sécuritaire et socio-économique. S'agissant de la crise écologique, nous assistons à une réduction drastique de la superficie de ce lac, car de 25 000 km² dans les années 60, elle ne dépasse guère aujourd'hui 2 500 km², soit une perte de 90%. Sur le plan sécuritaire, le bassin du lac Tchad est confronté au terrorisme de Boko Haram. Sur le plan socio-économique, 30 millions de personnes vivent autour du bassin qui connaît une croissance démographique rapide et une pauvreté extrême. Face aux crises sécuritaires et climatiques, la seule solution à long terme est le développement socio-économique.
Le président Issifou Mahamadou, que vous venez d'écouter, il était au micro de nos confrères de la Voix du Sahel. À Agadez, les forces de défense et de sécurité ont présenté ce matin le bilan de leurs opérations menées dans le cadre de la sécurisation de la ville. La cérémonie a eu lieu au commissariat de la commune d'Agadez. Détail avec Moussa Maman.
De la fin septembre à aujourd'hui, les patrouilles mixtes composées de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale ont effectué plusieurs opérations de sécurisation de la ville d'Agadez. Elles ont pu saisir 1760 de comprimés tramadol, 74 kg de cannabis, 127 g d'héroïne, des armes, des munitions et 9 millions de faux billets. Plusieurs des personnes impliquées ont été interpellées. Le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance d'Agadez, Moussa Zaki, salue le courage des FDS.
Nous réjouissons très sincèrement du travail que la police est en train de mener dans cette région. Extraire tous ces produits dangereux, c'est vraiment chapeau.
La brigade des douanes d'Agadez, de son côté, a saisi mercredi dernier 53 tonneaux et 232 bidons de 20 litres d'essence. Issa Ibrahim, directeur SONIDEP Agadez, s'en réjouit.
Cette année 2016, on a eu 10 saisies que la douane nous a livrées à la SONIDEP. Et je pense que c'est vraiment un coup chapeau à nos forces de sécurité et à la douane qui fait vraiment son travail par rapport à la fraude du carburant.
Les forces de défense et de sécurité demande la collaboration de la population pour plus de résultats. Moussa Maman, Agadez, Studio Kalongo.
Je l'annonçais dans les titres, le président de la République Issoufou Mahamadou a reçu hier en audience le directeur général du groupe nucléaire français Areva. Philippe Notch affirme avoir échangé avec le chef de l'État sur les grands projets miniers et le contexte actuel marqué par la baisse du coût de l'uranium sur le marché international.
Le premier était la restructuration du groupe Areva qui dans les prochaines semaines va connaître des phases décisives avec une augmentation de capital qui est nécessitée par un deuxième aspect que nous avons évoqué avec le président de la République qui est les conditions de marché puisque l'uranium a baissé, il est aujourd'hui à 18 dollars, c'est-à-dire à la moitié de ce qu'il était il y a un an. Donc il a baissé de 50% en un an, il a baissé beaucoup depuis Fukushima également. Et donc nous avons abordé cet état du marché qui est difficile pour les entreprises. J'ai pu également faire part au président de la République de l'engagement des équipes de Cominac, de Somaïr à Arlit, des entreprises qui nous soutiennent, des salariés qui sont très engagés pour que dans ces conditions difficiles, on continue de progresser en matière technique, en matière économique et puis aussi dans tous les efforts que nous faisons pour les communautés. On a évoqué bien sûr à la fois la situation des hôpitaux d'Arlit et puis le projet Iraser que nous développons puisque ce n'est plus un projet en fait, hein, le développement de la zone avec les projets agricoles.
Des propos recueillis par nos confrères de la Voix du Sahel. Le dédouanement de certains produits d'importation est revu à la hausse depuis quelques jours. Du coup, les prix des produits connaissent une montée vertigineuse, situation qui n'est pas sans conséquence sur les activités économiques à Maradi, selon Jibou Hamani, membre du bureau de la Société africaine de transit.
Les prix sont même en cours d'augmentation. Côté riz à l'exportation, avant la tonne c'était à 21 000, maintenant c'est à 28 000. L'huile végétale, avant c'était à 900-950 et maintenant c'est jusqu'à 2250 à l'exportation chaque bidon. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe au niveau du gouvernement puisque le mal on ne concède pas. Ils prennent leurs décisions côté Niamey, on ne sait pas c'est quoi le grand problème. Tous les opérateurs économiques ont complètement arrêté même de transporter leurs marchandises. On sait qu'ici, Maradi, c'est la capitale économique, c'est le poumon de l'économie. Et si Maradi va mal, c'est tout le Niger qui va mal. La situation du transit est dans une situation chaotique. Un bureau qui peut faire une recette de 2 milliards à 3 milliards et maintenant, à l'heure actuelle, ne peut pas mobiliser 1 milliard 500.
En bref, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens a renouvelé son mot d'ordre de grève pour une durée de 48 heures à compter d'aujourd'hui et de demain. Le syndicat des scolaires dénonce, je cite, l'insouciance et le silence des autorités académiques et politiques face à ces revendications. Joint au téléphone par le studio Kalangou, le ministre de l'Enseignement supérieur n'a pas souhaité répondre. Les questions liées à la maîtrise de la croissance démographique sont au cœur des préoccupations des autorités politiques au Niger. Selon le coordinateur national de la plateforme africaine de la protection sociale, Idé Jarmakoy, le gouvernement et les partenaires au développement doivent capitaliser et valoriser les expériences en impliquant l'ensemble des acteurs concernés.
C'est une évaluation agro-sylvopastorale. Il était ressorti que la zone de la commune Niamey 2 est déficitaire à 60%. Globalement, surtout précisément par rapport à l'agriculture. Le déficit est surtout lié à l'agriculture. Mais tout de même, l'État a pris le soin pour un peu pallier à ces déficits, à un lancement de boutures de manioc. On ne peut pas vous donner maintenant les chiffres parce que jusqu'à présent, on n'a pas fini cette partie. On est au niveau des paysans. Pour le moment, on est là-dessus.
C'était plutôt Mme Elbak Zainabou Taribako sur la tournée d'évaluation de la campagne agricole 2016 de la région de Niamey qui a débuté depuis quelques jours. Je l'annonçais plus tôt, les questions liées à la maîtrise de la croissance démographique sont au cœur des préoccupations des autorités politiques au Niger. Selon le coordinateur national de la plateforme africaine de la protection sociale, Idé Jarmakoy, le gouvernement et les partenaires au développement doivent capitaliser et valoriser les expériences en impliquant l'ensemble des acteurs concernés.
Elle est inquiétante parce qu'il y a seulement un tiers des gens qui produisent et deux tiers mangent. Donc ça veut dire qu'il y a un déficit. Donc si on veut que nous produisons des richesses, il faudrait qu'on ait assez de main valide pour produire la richesse et avoir moins de gens qui consomment. Mais si on consomme, on ne produit pas, il y a un déficit. Et s'il y a un déficit, il y a un problème. Donc c'est pour ça que nous avons dit qu'il y a des partenaires qui nous aident. Mais il faudra qu'on arrive à mettre en place un tableau de bord de suivi des engagements pour voir chaque partenaire c'est quoi son approche. Mais l'État doit prendre des dispositions avec le chef de file de l'éducation de la population pour pouvoir tracer. Mais il y a des mains. Le plus grand main, c'est d'abord la nécessité de coordonner tout ce que nous sommes en train de faire. L'État doit coordonner avec ses patrons ce qu'il faut faire. Dans ces conditions, l'État doit communiquer au mieux avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs du privé, les acteurs de la société civile, les partenaires au développement, les ministères techniques et même le secteur privé.
À présent, la partie magazine de ce soir, la semaine de l'entrepreneuriat agricole et social se poursuit au palais du 29G de Niamey. Ils sont nombreux les jeunes entrepreneurs qui ont exposé leurs projets. En cette deuxième journée, nous avons rencontré Massoudou Adamou, un jeune entrepreneur qui fabrique du carburant avec des déchets plastiques. Un reportage de Habibou Garba.
Âgé de 32 ans, Massoudou Adamou a lancé son projet en 2014. Mais il n'a attendu que cette année pour exposer son talent au grand public. Pour lui, cette fabrication du carburant plastique est non seulement économique, mais aussi écologique.
Bon, pour le moment, c'est un prototype. On ne l'a pas encore essayé dans les voitures. On les a essayés dans des groupes électrogènes et aussi donc, dans des motos. Et pour trouver, par exemple, un litre d'essence, il faut donc mettre à peu près, on a mesuré 2 kilos de déchets. Oui, bon, aujourd'hui, il y a une problématique écologique, principalement à Niamey. On vit donc une catastrophe donc, des déchets et qui ont des conséquences donc, sur notre vie quotidienne. C'est dit, donc, pourquoi ne pas créer donc, un prototype qui va contribuer donc, à lutter contre les déchets plastiques.
Nombreux sont les visiteurs qui prennent d'assaut les stands d'hygiène Adamou, situé entre les stands de la coopérative NIA et celui des fabricants d'effets optiques. Parmi ces visiteurs, Gérard Delane, conseiller à la ville de Niamey, agréablement surpris. Il souhaite que ce type d'initiative soit encouragé.
Des intelligences qui peuvent apporter une valeur ajoutée à la société en termes d'assainissement, en termes de développement même intégré et de faire en sorte à ce que ces jeunes talents puissent se faire reconnaître et apporter leurs compétences à la société sans passer par d'autres structures. C'est une évidence que ce soit un plus. C'est même un rêve parce que aller pratiquement du déchet à la transformation, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et pour que la COP 22 soit réaliste, il faudrait que les vrais acteurs de développement soient impliqués dans le processus d'un changement nouveau.
Massoudou Adamou fait fonctionner sa petite entreprise grâce à l'aide de ses deux frères. Malgré la modestie de ses moyens et l'absence d'aide extérieure, il compte bien donner à son projet un grand retentissement. Habibou Garba, Studio Kalangou.
C'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez à l'écoute du forum du Studio Kalangou. Ce soir, vous suivrez un forum spécial sur les bilans des 15 jours de la COP 22 qui s'achève ce soir même à Marrakech. Au revoir.